Chapitre 14, Lavarède devient mort, entre guillemets. Le lendemain, vers 10 heures du soir, Armand sortit du China Pacific Hotel avec Vincent. Le premier portait à la main un paquet volumineux enveloppé de papier fort. Quant au second, il semblait avoir peine à se porter lui-même. Rien d'étonnant à cela. Pendant le dîner, Lavarède s'était fait les chansons de son commensal, et l'un remplissant le verre, l'autre le vidant, la raison de l'employé n'avait pas tardé à sombrer. Vincent avait un magnifique plumet. Cependant, quelque peu soutenu par son compagnon, encouragé surtout par la confidence que le paquet contenait entre autres choses une bouteille d'excellent rhum, le brave homme arriva tant bien que mal au public entrance de la compagnie des transports funèbres. Là, il se sépara du journaliste, et tandis que ce dernier suivait Sussex Street jusqu'au quai, il passa devant la loge du concierge, traversa la cour d'un pas mal assuré, s'engagea dans une enfilade de bureaux et enfin atteignit le hall des trépassés. Les quatre murs nus formaient un rectangle allongé que recouvrait une toiture vitrée. Deux portes y donnaient accès, l'une par laquelle venait d'entrer l'employé, l'autre située dans la paroi opposée qui servait à la sortie des marchandises. Une cinquantaine de bières, posées sur des chevalets, étaient alignées le long des murailles. Au-dessus de chacune d'elles était fichée une étiquette portant un numéro d'ordre. Vincent commença par s'enfermer soigneusement, puis choisit dans un trousseau de clés celle de la porte du quai et alla ouvrir à son cher cousin. Un instant après, les deux hommes étaient assis côte à côte et surveillaient une casserole où le rhum, échauffé par la flamme d'une lampe à esprit de vin, faisait entendre un grésillement du plus heureux augure. Malgré un certain embarras de la langue, le veilleur parlait beaucoup, commençant des histoires qu'il ne terminait pas, et ne conservant dans le trouble de ses idées qu'une pensée nette. C'était la seule aussi, l'exprimait-il fréquemment. « My God !» disait-il, « j'ai le gosier sec comme un madou. Pressez le punch, cousin, que je lui donne la collade. » Enfin, Lavarède déclara à point le mélange contenu dans la casserole et servit largement l'employé. Mais on eût dit que le breuvage augmentait encore la soif de Vincent. Il engloudissait les verres de punch avec une rapidité prodigieuse, sans s'apercevoir que son compagnon ne buvait pas. L'effet de ce surcroît d'alcool fut foudroyant. L'Irlandais cessa brusquement de bavarder, ses yeux se fermèrent malgré lui, il oscilla sur l'escabeau qui lui servait de siège, il serait infailliblement tombé à la renverse si Armand ne l'avait reçu dans ses bras. Doucement, le Parisien le coucha sur le sol, où l'ivrogne s'étendit avec un grognement de béatitude. « Ouf !» murmura Lavarède. « M'en voici débarrassé. Allez maintenant à l'ouvrage !» Sur une table étaient rangés les outils, tournevis, marteaux, etc., nécessaires pour réparer les accidents survenus au colis. Le jeune homme s'en empara et fit le tour du hall en consultant les étiquettes des cercueils. Le numéro 49 frappa bientôt ses regards. Lavarède s'arrêta en proie à une émotion singulière. Devant lui s'allongeait la bière de chêne verni, curieusement fouillée, qui contenait la dépouille du mandchou King Chang. Dans cette demeure exiguë, le mort avait rêvé de dormir le sommeil éternel. Il avait pensé, protégé par elle, retourner au pays natal, d'où, vivant, il avait dû s'exiler. Et à l'idée de tromper ce suprême espoir, de dépouiller cette chose sans nom qui avait été un homme, le Parisien sentit s'accélérer les battements de son cœur pendant qu'une sueur glacée perlait à ses tempes. Il fut sur le point de renoncer à son expédition, de s'enfuir pour ne pas devenir profanateur d'un tombeau, mais il se ressaisit. Après tout, c'était un Chinois, un de ces magots dont tout pont un petit, les Occidentaux apprennent à rire, et puis, en somme, quel tort lui faisait-il? La terre de l'Empire du Milieu était-elle préférable au linceul vert des eaux? Brusquement, la varette desserra les écrous qui maintenaient le couvercle du cercueil et découvrit la caisse. À l'intérieur, capitonné de satin bleu brodé d'or, dans une sorte de nacelle de plomb, le manchot apparut, les coudes au corps, les bras repliés de telle sorte que les index s'appuyaient au lobe des oreilles. Ses yeux grands ouverts, en Chine on ouvre les yeux du défunt alors que dans nos pays on les ferme, semblaient regarder avec une fixité inquiétante les paysages de l'au-delà. À ce moment passa dans l'air comme un murmure de voix. La varette se retourna, saisie par une angoisse inexplicable, mais presque aussitôt un sourire distendit ses traits. Le bruit venait du côté où dormait Vincent. L'ivrogne rêvait. Courir à lui, lui prendre son trousseau de clés et revenir au manchot fut l'affaire d'un instant. Avec mille précautions, le journaliste fit glisser le cercueil à terre et, surmontant sa répugnance, il saisit Qin Chang par le milieu du corps. D'un brusque effort, il le tira de la caisse et, frissonnant au contact de son lugubre fardeau, il marcha vers la porte du quai. Il l'atteignait presque quand Vincent l'appela « Mon cousin !» Le jeune homme s'arrêta, les pieds cloués au sol, et tourna la tête vers l'ivrogne. Dans ce moment, il se trouva nez à nez avec le mort dont le chef reposait sur son épaule. Le manchot semblait sourire. Certes, si d'une autre patrie il assistait à la scène, il devait se retrouver bien vengé par les transes de son ennemi. La varette subissait une sorte d'hypnotisme. Les yeux fixés sur les yeux de Qin Chang, il avait le cou comme ankylosé et ne pouvait détourner la tête. Une minute se passa ainsi, un siècle, pendant lequel Armand, gagné par l'immobilité de celui qu'il portait, croyait à tout moment sentir s'abattre sur son épaule la main de Vincent. Mais rien ne bougea. Peu à peu, le Parisien se rassura, ses muscles tendus s'assouplirent. Un ronflement sonore lui prouva que l'employé n'avait pas cessé de dormir et il se mit en devoir d'ouvrir la porte. Le quai était désert. Sapristi, mais est-ce qu'il manquerait au rendez-vous ? Grommela Armand. Ah non, reprit-il après une inspection plus attentive, je crois reconnaître la silhouette de l'individu qui arrive là-bas. À peu de distance, en effet, un homme marchait, à petits pas, sans bruit, grâce à ses semelles de feutre. La varette adossa le corps du manchot au mur et se dirigea vers le promeneur. Ce dernier le regardait venir. Il le reconnut de son côté, car il lui demanda « Avez-vous réussi ?»« Parfaitement. » « Le traître attend votre bon plaisir. » Le lettré à bouton d'ambre, c'était lui, eut un geste joyeux.
« En ce cas, faisons vite !»
Sans émotion, cette fois, Armand retourna au rôle, rechargea l'infortuné Qin Chang sur son épaule et le porta jusqu'au bord du quai. Le mandarin se pencha sur le mort.
« C'est bien lui !» dit-il avec l'accent de la haine. « Le lotus blanc est vengé !»
Il descendit alors quelques marches de l'un des escaliers de débarquement ménagés dans le quai et ramassa avec peine un cylindre de fonte qu'il avait sans doute caché là par avance. Une corde solide l'assujettit à la ceinture du cadavre et, tranquillement, le Chinois poussa le tout dans l'eau. Un bruit bat, suivi d'un éclaboussement, de grands cercles concentriques, s'éloignant lentement du bord, puis plus rien. Le miroir liquide redevint uni, effaçant toute trace de l'opération funèbre. Le lettré tendit un paquet de banknotes à la varette.
Voici les 2000 dollars qui vous seront dus. Adieu, mon compagnon, que la divinité vous soit propice.
Et il s'éloigna rapidement, peu soucieux sans doute de demeurer plus longtemps sur le théâtre de ses exploits. Armand le suivit des yeux et, quand sa silhouette se fut confondue avec l'obscurité, il rentra dans le hall. Un instant après, le cercueil de plomb contenu dans le coffre allait rejoindre la dépouille du Manchou. Cela faisait de la place. La marraine ne tremblait plus. À l'aide d'une vrille, il perça de quelques trous les parois de la caisse où il comptait vivre désormais. Ses préparatifs terminés, il remit à leur place les outils de la compagnie et rattacha les clés à la ceinture de Vincent. L'employé ronflait toujours. Un sourire flottant sur les lèvres, le Parisien le considéra, puis il introduisit dans une enveloppe qu'il avait préparée les banquenotes du mandarin, la ferma soigneusement et la plaça bien en vue sur la chaise qu'occupait naguère son pseudo-cousin. Cela fait, il ramassa les vivres dont il s'était chargé en quittant le China Pacific Hotel, les déposa dans la bière vide, replacée sur les chevalets, et s'étendant lui-même au fond de la boîte funéraire, il en fit retomber le couvercle sur lui. Désormais, jusqu'à la côte chinoise, Lavarède était mort. À l'aube, quand Vincent, la tête lourde, ouvrit les yeux, il s'étonna d'être seul. Mais il aperçut la lettre du Français. La suscription ne laissait aucun doute, elle lui était adressée. Il la dégacheta, et ses gros doigts rouges, tremblant au contact des banquenotes, il lut. « Mon cher cousin, acceptez ces $2000 à compte sur l'héritage dont je vous ai parlé. Moi, je renonce volontairement à la vie, mais on revient parfois de l'autre monde. Si cela m'arrive, je m'empresserai de vous en informer. Croyez bien qu'en quittant cette terre, j'emporte de vous le plus cordial souvenir. » L'employé se frotta les yeux, relut l'étrange missive, se prit la tête à deux mains, geste qui, chacun le sait, signifie que l'on donne sa langue au chien. Sa mimique se termina par un haussement d'épaule et par cette phrase prononcée d'un ton tranquille « Oh, c'était un fou, mais $2000, c'est raisonnable. » Sur cette raison funèbre quelque peu cavalière, Vincent quitta le hall sans prendre garde à un rire étouffé qui semblait partir de la bière numéro 49. À la même heure, Bouvreuil, assis dans sa chambre, était en grande conversation avec l'un des jeunes garçons du China Pacific Hotel, originaire d'Allemagne. Moyennant une rétribution honnête, le boy surveillait pour le compte du propriétaire les démarches d'Armand et de ses compagnons. « Alors, s'écria le père de Pénélope, vous dites qu'il n'est pas rentré de la nuit ?»« Ah non, monsieur, le voyageur de la chambre 13 a découché. »« A découché et les autres ?»« Ils se sont enfermés chez eux. » « Enfermé !» Bouvreuil sauta à terre et tout en passant son pantalon. « Pourvu qu'il n'ait pas quitté l'hôtel à la faveur des ténèbres !» Le petit Allemand secoua la tête. « Oh, c'est peu probable car leurs chaussures sont encore à leur porte. » L'usurier respira. « Ah, c'est bien, mon ami, je vous remercie. » Resté seul, Bouvreuil réfléchit tout en continuant de s'habiller. Ce diable d'homme a disparu, se dit-il, mais j'ai un moyen de le rejoindre. S'il est sur le point de poursuivre son voyage, les Anglais, forcés de faire route avec lui, vont sûrement le retrouver. Il s'agit donc de ne pas les perdre de vue. À la hâte, il empila pêle-mêle dans sa valise sa peu volumineuse garde-robe et quitta sa chambre. Sir Marlitton et sa fille dormaient encore. Leur brodequin, ainsi que l'avait affirmé le garçon, s'alignaient devant leur porte. Bouvreuil, enchanté, alla se dissimuler dans le bureau de l'hôtel, désert à cette heure matinale, et d'où il pouvait voir sans être vu. Pendant près de 2 heures, il attendit. La faction commençait à lui paraître insupportable, quand Miss Aurette, donnant le bras à son père, se montra enfin. Tous deux gagnèrent la rue du pas tranquille de deux bons bourgeois qui se promènent. Certes, sans l'absence inexplicable de la Varenne, le propriétaire n'aurait pas songé à leur emboîter le pas. Mais sa méfiance, il en avait en proportion directe de sa duplicité, était éveillée. Son bagage à la main, il suivit les Anglais. Ceux-ci ne soupçonnaient pas l'usurier si près d'eux. Ils faisaient le long du chemin les emplettes indispensables pour la longue traversée qu'ils allaient entreprendre. Bouvreuil tressaillit d'aise en les voyant se munir d'une valise ayant tassé du linge des objets de toilette et des parfums. Décidément, ces gens étaient sur leur départ. Ils se louaient de sa perspicacité. À l'angle d'une rue, les Anglais ayant tourné, il allongea le pas pour les rejoindre. Mais en débouchant sur l'avenue, il se jeta presque dans leurs bras. En l'apercevant, Aurette poussa un petit cri. « Mon père, voyez-vous cet homme ?»« Oh !» répliqua flegmatiquement Merliton. « Que fait-il là ?»« Mais il a sa valise, comme nous la nôtre. »« Il nous suit, peut-être. » Pendant ce rapide colloque, Bouvreuil avait traversé la rue et, debout sur le trottoir opposé, semblait très intéressé par la lecture d'une affiche. « Il faut que nous lui fassions perdre notre trace, mon père. »« Vous penchez ainsi, Aurette ?»« Oui, par délicatesse envers M. Lavarède. »« Alors, vous allez être satisfaite. » Un hansom passait. Sur un signe du gentleman, la voiture va se ranger contre le trottoir. Les Anglais y prirent place. Mais déjà, le propriétaire attentif à tous leurs mouvements arrêtait un autre véhicule. La jeune miss lui montra le poing avec colère. « Mais c'est trop fort! Il prétend ne pas nous quitter !» Merliton haussa les épaules et montrant une livre sterling au cabby, juché sur le siège. « Vous voyez ceci ? » fit-il paisiblement. « Oui, gentlemen !» « C'est à vous, si vous distancez le cab. »« Où allons-nous ? Où vous voudrez ? All right ?» L'homme rassembla les rênes, enleva son cheval d'un coup de fouet, et la voiture partit bon train. Le cab de Bouvreuil s'ébranla et suivit à la même allure. Durant quelques minutes, les deux véhicules maintinrent leur distance. Soudain, un rassemblement barra le passage. « Bon !» comme là le gentleman. Il ne manquait plus que cela. Nous sommes cernés. » Mais la promesse d'une guinée donne de l'esprit à un cocher. Celui du Hansom leva son fouet en l'air et d'une voix retentissante cria « Service de la police !» Les badauds s'écartèrent aussitôt pour se refermer en masse plus compacte après le passage de la voiture. Aurette battit des mains toutes joyeuses. Moins adroit ou moins stimulé, l'automédon de Bouvreuil parlementait avec la foule qui refusait de lui faire place. Pendant ce temps, le hansom roulait rapidement, se jetait dans une rue transversale et disparaissait. Bouvreuil était battu. Dépité au possible, il revint au China Pacific Hotel. Il lui restait une chance de retrouver les fugitifs. C'était de consulter le tableau du mouvement du port afin de savoir quel bateau devait prendre la mer dans la journée. Comme il y arrivait, un homme sortait de l'hôtel. C'était Vincent, qui, sa garde terminée, était venu demander à Master Towers s'il n'avait pas revu son pseudo-cousin. Sur sa réponse négative, il s'en allait, haussant les épaules. Bouvreuil le reconnut. C'était le convive amené à deux reprises à la table d'hôte par la Varenne, personnage qui l'avait fort intrigué. L'occasion était trop belle pour qu'il ne la saisît pas aux cheveux, les 10 cheveux étant dans l'espèce le bras de Vincent qu'il happa au moment où l'Irlandais passait à sa porte. « Wells ?» dit celui-ci, non sans étonnement. « Vous cherchez sans doute votre ami ?» répliqua l'usurier. « Oui, moi aussi !» Vous ? Oui, moi, nous avons fait ensemble le voyage de France ici. Je suis très inquiet, comme hier soir, il a quitté l'hôtel de votre compagnie Je pensais que vous pourriez me rassurer sur son compte. Hélas, non, soupira Vincent en prenant un air affligé. Je crois qu'il est mort, ou du moins il me l'a écrit. Qu'est-ce que vous me chantez là ? La vérité, voici la lettre de mon pauvre cousin. Ah, il est votre cousin ? Oui, venu d'Irlande, tout exprès pour me voir. Le propriétaire, à ces mots, eut peine à réprimer un mouvement de joie. Ses soupçons vagues prenaient corps. Il devinait qu'il avait en main un instrument dont le Parisien s'était servi. Mais pourquoi ? Dans quel but ? Voilà ce qu'il importait de savoir. Et ce qu'il saurait. « Tenez, reprit-il d'un ton bonhomme, vous me paraissez aussi affecté que moi-même. Voulez-vous accepter un verre de Porto ? Nous causerons peut-être qu'à nous deux, nous réussirons à retrouver sa trace, car il n'est pas possible qu'il soit déjà mort. » Un verre de Porto Wine ne se refuse jamais. Vincent accepta. Un instant après, les deux hommes étaient assis dans la chambre de Bouvreuil, en face d'une bouteille dont la panse poussiéreuse attestait l'âge respectable, et Vincent racontait et Bouvreuil écoutait. Cependant, Miss Aurette et son père, délivrés de leur opiniâtre poursuivant, s'étaient fait conduire dans un restaurant voisin du port, avaient déjeuné et s'étaient ensuite rendus à bord du Hemingway. Son chargement terminé, le steamer attendait sous pression que la marée fût haute. Tout était disposé à bord et les volutes de fumée qui s'échappaient des cheminées indiquaient que le navire était prêt à prendre le large au premier signal. La jeune Anglaise ne tenait plus en place. Debout près de la coupée, elle fouillait du regard la foule grouillante sur le quai avec une crainte énorme de reconnaître Bouvreuil parmi les promeneurs. À deux pas, le capitaine du Hemingway, ex-capitaine marchand, que la haute paye offerte par la Box Pacific Line avait séduit, regardait aussi. Il était peu probable qu'il se présentât un supplément de chargement à 7 heures, mais on ne sait jamais, et le capitaine était paré à recevoir l'imprévu. La tête massive, le sang à la peau, la face élargie par des favoris roux, le maître après Dieu, à bord du Hemingway, était un Yankee dans toute la force du terme, aimable, peu. Bavard, pas, mais pratique au possible, sachant utiliser les événements et la place. Son navire jaugeait 2000 tonneaux. Il trouvait le moyen d'y faire entrer pareil poids de marchandises, et par-dessus le marché, les défunts chinois et les passagers vivants. L'heure du départ était venue. « Sommes-nous en pression ?» demanda le capitaine à son second debout sur la passerelle. « Oui, monsieur. » À ce moment, un homme pressé, une valise à la main, pénétra sur le steamer en demandant d'une voix anxieuse « Monsieur Matthew, commandant du Hemingway !» Sir Merliton et sa fille eurent un geste de mécontentement. Le nouveau venu était Bouvreuil. L'usurier avait fait parler Vincent, et de son récit il avait conclu que la Varède devait être à bord du vapeur, car il s'était trop intéressé aux Chinois pour que cela ne cachât pas quelque chose de suspect. Cette supposition était devenue une certitude lorsqu'il avait aperçu les Anglais sur le pont. « Monsieur Matthew, répéta-t-il. « C'est moi, monsieur, répondit le capitaine en s'avançant vers lui. « Fort bien, enchanté de faire votre connaissance. » Et lui tendant un imprimé, « Je vais faire la traversée avec vous, vous qui prouvera que je suis en règle avec l'administration du Box Pacifique. » Monsieur Matthews s'inclina. « Ah, c'est parfait, monsieur seulement. Ah, il y a un seulement. Oui, mon navire n'est pas aménagé en vue de passagers. Je ne possède que 12 cabines. » Cela suffit, déclara Bouvreuil. Or, continua imperturbablement l'Américain, sept sont occupés en ce moment. Il en reste donc cinq, qui sont retenus par des gentlemen qui embarqueront à l'escale de Honolulu. Le père de Pénélope fit la grimace. « Ce qui signifie, reprit-il avec une visible anxiété, que jusqu'aux îles Sandwich, il m'est possible de vous assurer une cabine, mais que pour le reste du trajet, il vous faudra vous contenter d'un hamac dans le poste de l'équipage, à moins que vous ne préfériez attendre le prochain départ. « Non, non, je me contenterai de ce qu'il y a, » s'empressa de répliquer le propriétaire. Il dut cependant s'avouer in petto que les voyages en mer ne lui réussissaient pas, et il évoqua le pénible souvenir de la Lorraine. Monsieur Mathieu, portant à ses lèvres un gros sifflet fixé à l'extrémité d'une chaînette d'acier, en tira un son aigu et prolongé. À ce signal, le steamer parut s'animer, tel un monstre marin mugissant et crachant la vapeur. Les pistons glissèrent progressivement dans les cylindres avec un ronflement sourd. La fumée fusa par les cheminées, et sous la poussée de son hélice qui se tordait dans un tourbillon d'écume blanche, le Hevenway s'éloigna majestueusement du quai. Lentement, comme pour laisser admirer la ville en son splendide panorama, il traversa le port encombré comme toujours par une véritable flotte marchande. Il louvoya par la baie, conduit par le pilote, entre les innombrables navires qui font le service des localités voisines, Auckland, San Celito, Fulton. Plus loin, il dépassa l'îlot de la Quarantaine, puis San Rafael, et le coteau du télégraphe. Enfin, après le fort-heurtin du Présidium, ayant franchi la passe de la Porte d'Or, le navire stoppa pour laisser entrer le pilote. Le cotre de ce dernier s'éloigna. Alors, laissant Cliff House et l'île des Phoques en arrière, le Hevenway fendit de son étrave les flots de l'océan Pacifique. Les premiers jours de la traversée s'écoulèrent sans incident. Le Pacifique restait uni comme un miroir, et les passagers du Hevenway pouvaient se promener sur le pont sans craindre les surprises du roulis. Miss Aurette et son père avaient décidé que les autres passagers, marchands de bœufs américains ou chinois sans importance, n'étaient point gens à fréquenter, et ils n'échangeaient quelques paroles qu'avec le capitaine Mathieu et son second, M. Creighton. Mais ces gentlemen eux-mêmes, quelque peu embarrassés en présence de personnes aussi correctes, ne leur étaient qu'une faible distraction. Le dimanche, après une lecture de la Bible faite à haute voix par le capitaine entouré de son équipage, Bouvreuil avait bien essayé de converser avec les Anglais, mais dès les premiers mots, la jeune fille lui avait répondu si sèchement qu'il s'était tenu pour battu et n'avait plus insisté. Depuis ce moment, il avait évité d'approcher d'elle, se bornant à surveiller à distance tous ses mouvements. Il avait son idée, ce propriétaire. Les Merleton étant à bord, la barrette devait y être aussi. Seulement le diable de journaliste était bien caché. Et le père de Pénélope eut beau parcourir le navire, il ne l'aperçut nulle part. La chambre des machines, la soute aux vivres, le poste de l'équipage, sa demeure future, furent de sa part l'objet d'investigations minutieuses qui ne donnèrent aucun résultat. Mais il y mettait de l'entêtement. « Il est ici !» se répétait-il. « À un moment quelconque, il devra bien se montrer !» Il s'agit donc de ne pas perdre de vue la jeune Miss. Elle est mon indicateur. Et sur cette épithète policière, qui eût fait bondir celle qui en était l'objet, Bouvreuil s'était mise aux aguets. Les journées des 8 et 9 août se passèrent sans qu'il eût relevé le plus léger indice de la présence de son ennemi à bord, et rentré dans sa cabine de fort méchante humeur, il s'étendit sur son cadre en proférant contre Armand les plus terribles menaces. Heureusement, les forces humaines ont des limites, et malgré son exaspération, l'usurier s'endormit de ce sommeil profond improprement appelé « sommeil de l'innocence ». Au milieu de la nuit, il fut réveillé en sursaut par un bruit éclatant qui retentit sous le plancher de sa cabine. Bouvreuil n'était rien moins qu'un héros. Il se dressa sur son séant et, très ému, prêta l'oreille. Mais le silence s'était fait. Au bout d'un instant, le propriétaire se renfonça dans ses draps en maugréant. Il avait eu un cauchemar, voilà tout. Au-dessous des cabines était le compartiment réservé aux cercueils. Quelle apparence que le vacarme vint de là ! Les défunts couchés dans leur bière, sont gens silencieux, de voisinage paisible. Le doute n'était pas permis. Bouvreuil avait rêvé. Et sur cette affirmation, le délégué des porteurs de Panama s'était rendormi benoîtement. Pour une fois, sa perspicacité était en défaut. Le bruit venait bien réellement de la soute au trépassé. La Varenne, une fois enfermée dans sa bière, s'était ennuyée fermement, on le devine. Aux secousses qui agitaient sa prison, il avait compris qu'on l'embarquait. Puis la trépidation de l'arbre de l'hélice lui avait indiqué le moment du départ, et bien qu'il fût à l'étroit, il respira à l'aise lorsque le mouvement du roulis agitant le Even Way d'un bord à l'autre lui eut appris que le steamer avait gagné la haute mer. Nul ne pénétrait dans le compartiment funèbre. Le journaliste put donc sortir de sa caisse et se dégourdir les membres quelque peu alourdis par sa longue immobilité. Certes, la promenade entre deux rangées de cercueils n'avait rien de folâtre. Certes aussi, l'atmosphère était imprégnée d'une senteur musquée particulière à la race jaune. Mais, comme le jeune homme se le déclara à lui-même, il n'était pas là pour s'amuser. Tant bien que mal, les journées du 7 et du 8 août se passèrent, mais le matin du 9, Armand constata avec inquiétude que ses provisions empruntées à l'office du China Pacific Hotel étaient épuisées. Un peu de chocolat, un croûton de pain, voilà tout ce qui lui restait pour accomplir une traversée de 32 jours. Bon, il ne s'abandonna pas au désespoir et résolut tout simplement d'attendre la nuit pour se glisser vers la cuisine et renouveler ses approvisionnements. Elle fut longue à venir, cette nuit. L'estomac vide du voyageur protestait contre la lenteur des heures, mais les objurgations de cet organe n'influèrent pas sur la détermination du Parisien. Une imprudence pouvait tout perdre. Il valait mieux souffrir un peu et ne quitter sa cachette qu'au moment où, sauf les matelots de quart occupés sur le pont, tout dormirait à bord. Enfin, cet instant impatiemment désiré arriva. Armand quitta le compartiment des rapatriés, se glissa le long des coursives et atteignit sans encombre l'office qui, sur les bâtiments modernes, remplace l'ancienne soute aux vivres. Biscuits, conserves de bœufs, bidons de vin furent empilés à la hâte dans un morceau de toile que notre explorateur trouva là. Son butin empaqueté, il reprit en sens inverse le chemin qu'il venait de parcourir, mais la chance, qui avait protégé son excursion jusque-là, l'abandonna soudain. Dans le couloir des cabines, la Varenne se trouva face à face avec un homme de l'équipage. Le corridor était étroit. Le matelot dévisageait Armand et paraissait surpris de ne reconnaître en lui ni un de ses camarades, ni un des passagers. « What are you doing here ?» demanda-t-il. « Ce que je fais ici ?» commença le journaliste. Ce qu'il faisait, il ne pouvait le dire. Un coup d'audace seul était capable de le tirer de là. Brusquement, il se jeta sur le marin sans défiance encore, lui passa la jambe et, tandis que l'Américain nageait sur le plancher, il s'élança en courant dans la direction du compartiment des cercueils. Mais l'homme furieux s'était relevé et se précipitait à sa poursuite. Armand tourna la tête sans ralentir son allure. 20 pas le séparaient de son ennemi, c'était suffisant. D'un dernier effort, il atteignit la porte du compartiment, bondit dans sa bière et y disparut en faisant retomber le couvercle avec fracas au moment même où le matelot s'apprêtait à entrer dans le hall. L'Américain s'arrêta net. D'un coup d'œil, il avait reconnu le lieu où il se trouvait et ce bruit subit, inexplicable, le terrifiait. Tous superstitieux, les marins. Sans crainte, ils bravent les éléments déchaînés, mais tremblent au seul nom de l'invisible. L'homme n'alla pas plus loin. Il referma soigneusement la porte de la chambre des morts, dans laquelle, ému, il avait jeté un regard un peu troublé. Rien d'insolite ne lui était apparu. Il remonta sur le pont, assez bouleversé. Là, il confia son aventure au matelot de quart, et tous, sans hésitation, déclarèrent que le camarade avait rencontré un revenant. Et ils pouvaient bien le dire, par un raisonnement logique. Les morts seuls habitent chez les morts. Sans nul doute, on se trouvait en présence d'une âme séparée de sa genie terrestre, sans être en état de grâce. Impressionné par les appréciations de ses compagnons, celui qui avait poursuivi la varenne commença à n'avoir plus une perception bien nette de l'événement. Il en arriva à se figurer qu'il avait senti s'appliquer sur son mollet un objet plus froid que glace. Son amour-propre, du reste, y trouvait son compte. Ce n'était pas un homme, c'était un esprit qu'il avait renversé. À cette occasion, on rappela la lutte de Jacob avec l'ange, mais en dépit des citations bibliques et de l'air dégagé qu'affectaient quelques marins, la peur planait sur le navire. En passant le quart à leur remplaçant, les matelots leur firent part de l'incident merveilleux en l'enjolivant un peu, bien entendu. Les seconds tremblèrent plus fort que les premiers, et rapportèrent au poste de l'équipage une nervosité qui gagna les hommes de proche en proche. Bref, au matin, tandis que la varenne, un peu inquiet des suites de l'aventure, se tenait coi dans sa caisse capitonnée, il n'était pas un gabier qui, en suivant les couloirs du steamer, ne se sentit mal à l'aise et l'interrogea d'un regard anxieux les coins noyés d'ombre, avec la crainte de voir se dresser brusquement l'âme en peine du Heavenway. Or, de bonne heure, Sir Merliton et sa fille étaient montés sur le pont. Le capitaine Matthew les avait informés que ce jour-là, 10 août, le steamer traverserait le grand courant du Pacifique, désigné sous le nom de Kurosivo ou Fleuve Noir. Appuyés au bastingage, ils écoutaient les explications de l'Américain. Le nom de ce courant, disait-il, est parfaitement justifié. Il forme un véritable fleuve dont les eaux ont une teinte plus foncée. Large de 8 à 9 kilomètres en moyenne, le Kurosivo se fraye un passage à travers les flots de l'océan. Il est bien le pendant du Gulf Stream, le courant atlantique. Mais, demanda Aurette, a-t-il une température aussi élevée ? Oui, mademoiselle, et si la pluie, portion du sud territoire d'Alaska, est couverte d'une végétation abondante, c'est uniquement à l'influence du Kurosivo que ce phénomène doit être attribué. Sans cela, comme tout le reste de la presqu'île, la côte méridionale serait obstruée par les glaces et la flore n'y serait représentée par des mousses, des lichens et quelques maigres bouleaux. Bon, enfin, c'est quelque chose comme Roscoff en France. Précisément. Seulement le Roscoff américain, qui fut russe autrefois, s'étend sur une longueur de 400 kilomètres. Sir Merliton complétait ses renseignements par la théorie connue des courants chauds quand M. Creighton s'approcha d'un air embarrassé. « Qu'avez-vous donc ?» demanda M. Matthew à son second. « Vous ne semblez pas dans votre assiette. »
« C'est qu'il se passe à bord des choses mystérieuses. »
Le capitaine eut un haut le corps.
« À mon bord ?»«
Oui, monsieur. »«
Ah, expliquez-vous. »« Je ne demande pas mieux, monsieur Matthew. Voici, cette nuit, le matelot Five Creek a rencontré dans le couloir des cabines un être qui avait la forme d'un homme.
« La forme d'un homme ?» s'écria le capitaine.
« Qu'entendez-vous par ces mots, la forme d'un homme ?»«
Je veux dire que c'était seulement une apparence. Five Crane ne reconnut en lui ni un passager ni un marin de l'équipage et lui demanda ce qu'il faisait à cet endroit.
« Eh bien, mal lui en prit, » continua Creighton, car soudain il entendit des paroles dites en une langue inconnue, puis un froid terrible. On eût dit qu'un bloc de glace lui était appliqué sur la peau. L'impression fut si forte qu'il tomba à terre.
Monsieur Matthew haussa les épaules.
« Fire Freak était ivre, il a rêvé.
Oh, »« Je ne crois pas, monsieur, le premier mouvement de stupeur passé. » Le garçon se releva et poursuivit le singulier promeneur, mais celui-ci gagna le compartiment des morts et disparut avec un fracas de tonnerre.
La jeune Anglaise regarda son père, moitié sérieuse, moitié souriante. Elle devinait bien qui était l'auteur de la panique. Elle riait à la pensée de Lavared, devenu un revenant pour l'équipage, mais comprenant que le jeune homme était sorti de sa cachette pour remplacer ses vivres épuisés, elle éprouvait une sourde inquiétude. Avait-il réussi dans son expédition et dans ce moment même, ne souffrait-il pas de la faim ?
Le capitaine se tut un instant, évidemment, il était embarrassé. Les règlements maritimes n'ont pas prévu le cas où un revenant s'introduirait à bord. Que devait-il faire ? La réponse à la question ne vint pas, et plutôt que de rester court, M. Matthew jugea politique d'affecter l'incrédulité la plus complète.
« Monsieur Creighton, dit-il d'un ton goguenard, je ne conçois pas que vous, un officier sérieux, vous vous fassiez l'écho de pareils contes. Veuillez prévenir Five Creek que, s'il lui arrive encore des aventures merveilleuses, je le mettrai au fer pour calmer son imagination. »
Le second s'inclina, mais tout à coup, il demeura courbé en deux sans achever le mouvement commencé. Une voix avait prononcé ces paroles.
« Mais est avis que le matelot n'a point rêvé. J'ai moi-même été réveillé cette nuit par un grand bruit qui paraissait venir de l'endroit où sont les cercueils. »
Tout le monde s'était retourné vers celui qui avait parlé. C'était Bouvreuil. Monté sur le pont depuis quelques minutes, il avait écouté, sans être remarqué, le rapport du second. L'inquiétude de la jeune Anglaise ne lui avait pas échappé, flairant vaguement une corrélation entre l'aventure du matelot et la disparition de son introuvable gendre, il s'était mêlé à la conversation. Le capitaine toisa le passager.
« Vous prétendez avoir entendu ?»« Oui, capitaine, je vous le répète, j'ai été tiré de mon sommeil par un bruit épouvantable. »
« Et, questionna le second, avez-vous remarqué à quelle heure le fait s'est produit ?»«
Oh, il pouvait être environ minuit. »
Creighton hocha la tête. « Oh, c'est bien l'heure indiquée par Fairwick. » Quant à M. Matthew, il ne riait plus. Point esprit fort du tout, n'ayant qu'une instruction primaire, peu supérieure à celle de ses subordonnés, le capitaine, en dehors de son métier qu'il connaissait bien, était ignorant de toute chose. Rien d'étonnant à ce qu'il partageât les superstitions de ses matelots. Il avait essayé de railler d'abord, mais le témoignage d'un passager donnait à l'incident un caractère d'authenticité indéniable. Le navire était hanté. Et M. Mathieu songeait avec un malaise inexprimable qu'avant d'atteindre Honolulu, première escale du steamer, il faudrait vivre 7 jours dans un étroit espace où un être de l'autre monde avait élu domicile. La perspective n'était rien moins que gaie. Miss Aurette suivait ses pensées sur son visage. Elle essaya d'égarer l'opinion du brave homme et d'un ton indifférent. « Moi, je crois qu'un colis mal attaché sera tombé, dit-elle. Cela expliquerait le vacarme qui a réveillé monsieur. » Elle désignait Bouvreuil. Celui-ci n'avait pas quitté la jeune fille des yeux et ses soupçons avaient pris corps. Son jeu était de contrecarrer l'anglaise. Aussi, il s'empressa de répondre. En effet, mais la rencontre faite par le bateau Five Creek n'est pas expliquée par cette hypothèse. Puis d'un air bonhomme. Oh, il me semble d'ailleurs facile de savoir à quoi s'en tenir. Ah, fit M. Mathieu, et comment, je vous prie? L'être fantastique s'est dissipé dans la chambre des Chinois. Il suffirait de placer un factionnaire à la porte de cette pièce. Oh, la supposition de mademoiselle est la bonne, et il ne se produira plus rien d'anormal où le marin a bien vu, alors le visiteur mystérieux fera encore des siennes. Nos doutes seront ainsi transformés en certitudes, et nous n'aurons plus le cas échéant qu'à faire dire quelques prières pour assurer le repos de l'âme errante et le nôtre. Aurette avait pâli légèrement. Le compartiment des rapatriés gardés, la Varède était condamnée à mourir de faim ou à s'avouer vaincue. L'une ou l'autre alternative lui paraissait désolante. Et cependant, M. Mathieu, enchanté de la solution proposée par l'usurier, se tournait vers son second en se frottant les mains. « Vous avez compris, M. Crichton ?»« Parfaitement, M. Mathieu. Eh bien, faites que la porte de la chambre jaune soit constamment surveillée. » Bouvreuil lança un regard de triomphe à la jeune miss. Celle-ci détourna la tête, mais l'usurier avait eu le temps de constater que ses yeux étaient humides. De fait, Aurette avait éprouvé une émotion pénible en entendant l'ordre du capitaine. Un désir fou de bondir sur le propriétaire et de l'étreindre à la gorge avait possédé la douce enfant. Et le souci du convenable, toujours présent dans une cervelle britannique, avait failli être vaincu. Ce n'était plus seulement de l'antipathie qu'elle éprouvait pour Bouvreuil, mais un sentiment rageur qui ressemblait fort à de la haine. Sans déplaisir, elle eut vu le père de Pénélope aux prises avec les plus abominables aventures. En un mot, la colère apprenait la férocité à l'innocente créature qui jusque-là n'avait connu que le sourire et la bonté. L'agneau devenait enragé. Et par contre-coup, la jeune fille qui jusqu'alors s'était avouée timidement qu'elle ressentait une certaine amitié pour Armand en arriva à se déclarer timidement qu'elle ressentait... que le mot « amitié » était insuffisant. Sa franchise fut aussitôt récompensée par un trouble si délicieux qu'elle n'hésita plus à considérer comme un devoir d'aider le journaliste. Elle dut reconnaître cependant qu'en agissant dans ce sens, elle irait à l'encontre de l'intérêt de son père et jugea décent d'obtenir son assentiment. La chose était aisée. Le gentleman adorait sa fille. Il accepta sans trop de peine les raisons quelque peu spécieuses dont elle le bombarda. « Eh bien, soit, lui dit-il pour conclure, devoir d'humanité, devoir de connaissance, agissez à votre guise, je vous donne carte blanche. » La cloche du déjeuner réunit au carré les officiers et les passagers. L'anglaise avait repris son air souriant, mais le rose de ses joues s'était légèrement accentué et ses yeux pétillaient de malice, ainsi que ceux d'un jeune chat auquel le hasard accorde un tête-à-tête avec un fromage à la crème. Bouvreuil fit toutes ces remarques, non sans une certaine inquiétude. Miss Aurette ne le regarda même pas. Tranquillement, elle s'assit à sa place habituelle, causa, comme à l'ordinaire, des menus incidents du bord, et parut avoir oublié ce qui s'était passé le matin. Mais, quand le café fumant eut été versé aux convives, elle interrompit tout à coup le capitaine Matthew au milieu d'une dissertation sur les frégates, ces admirables oiseaux que l'on rencontre en pleine mer, à 5 ou 6 journées des côtes. « À propos, capitaine, et le fameux revenant ?»«
Oh, on ne l'a pas revu, mademoiselle. »«
Vraiment, vos marins doivent être rassurés. » Monsieur Matthews fit la grimace. « Pouh !»«
Quoi, il trempe encore, hein ? Un esprit gardé par un factionnaire n'est cependant plus à craindre. »
Elle riait en parlant ainsi. Son ton gouailleur piqua le capitaine au vif.
« Eh, mademoiselle, les matelots sont courageux lorsqu'il s'agit d'un danger connu. La tempête, la foudre ne les empêche pas de veiller à la manœuvre, mais contre les choses de l'autre monde, contre les êtres impalpables, l'homme le plus brave ne peut rien. »
Il avait baissé la voix sur ces mots, prouvant ainsi qu'il n'était pas à l'abri de toute inquiétude. La gaieté d'Aurette parut s'en augmenter. Elle reprit « Vous n'avez pas un marin anglais dans l'équipage ?»«
Non, 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 tous américains, mais pourquoi ?»«
Parce qu'il aurait redonné du cœur aux autres. » On sait l'antagonisme qui existe entre la vieille Albion et la jeune Amérique, entre John Bull et son fils Jonathan. Rien ne pouvait être plus désagréable au capitaine que la réflexion de la jeune fille.
Un anglais, répliqua-t-il d'un ton bourru, ne ferait pas autrement que les autres.
Oh que si! Monsieur Matthews devint cramoisi.
Eh bien, je vous parie, commença-t-il,
mais il s'arrêta et continua avec plus de calme. J'allais
dire une sottise, puisqu'il n'y a aucun matelot de votre nation à bord.
Oh, cela ne fait rien. Qu'alliez-vous parier ?
Questionna la jeune fille, intérieurement ravie de voir son interlocuteur au point où elle voulait l'amener.
Non, non, c'est inutile.
Je vous en prie.
Ah, c'est pour vous obéir, alors. Ben, j'allais parier qu'un Anglais ne se montrerait pas plus tranquille que mes hommes. Vous le voyez, le pari était platonique, puisque mon navire ne porte aucun natif de la Grande-Bretagne.
Le visage d'Aurette était devenu grave.
Je ne suis qu'une jeune fille, dit-elle en affectant un grand sérieux, mais je tiens le pari, moi je ferai ce qu'aucun de vos matelots ferait, et j'espère ainsi les rassurer.
Vous ? S'écrièrent tous les assistants ébahis.
Moi-même ?
Et comme les convives l'interrogeaient du regard, l'Anglaise poursuivit.
Le pari est-il tenu ?
Oui, mademoiselle.
Fixez vous-même l'enjeu.
10 $.
Bien. Alors, capitaine, veuillez rassembler l'équipage sur le pont et lui faire la proposition que je vous soumettrai au dernier moment.
Monsieur Matthew parut interloqué.
Il est entendu, n'est-ce pas, mademoiselle, que vous ne demanderez que des choses possibles ?
Naturellement, puisque je m'engage à faire ce que je réclamerai de vos hommes. Vous ne supposez pas que je me livrerai à des fantaisies dont une personne bien élevée aurait à rougir.
Rassuré par cette déclaration, le capitaine promit, et le café dégusté, il monta sur le pont, suivi des passagers, curieux de savoir ce qui allait se passer.
Ceux-ci, du reste, suivant la coutume américaine, engageaient des paris à leur tour. Les 10 $ de M. Matthew en mettaient 1000 en mouvement. Sur l'ordre transmis par le second, le sifflet des quartiers-maîtres appelait l'équipage en haut.
De la mâture, de l'entrepont, les marins obéirent à l'appel et se placèrent sur deux rangs en face du groupe que formaient les officiers et les passagers. Alors Miss Aurel se pencha à l'oreille de M. Mathieu et prononça quelques mots à voix basse. Le capitaine eut un geste de surprise, puis, prenant son parti, il s'adressa aux marins. « Mes enfants, dit-il, un de vous a rencontré l'autre soir un personnage qui ne devait pas être à bord. » Un murmure parcourut les rangs. « Peut-être a-t-il été le jouet de son imagination. Il faudrait le prouver afin de vous dispenser de la corvée et de monter la garde à la porte du compartiment des Chinois. » Les matelots ébauchèrent un sourire, évidemment. La suppression de la faction ne leur déplaisait pas. Encouragé par cet accueil, M. Mathieu continua. L'affaire est simple. Désignez l'un de vous qui s'enfermera ce soir dans la chambre jaune. Comme cela, au moins, on saura si oui ou non l'âme d'un des deux défunts se promène la nuit. Vous me direz tout à l'heure ce que vous aurez décidé. Rompez les rangs. Tous les visages s'étaient assombris. Les matelots se concertèrent entre eux. Au bout de 5 minutes, le plus ancien vint au capitaine, son béret à la main. « Eh bien ?» demanda M. Mathieu. L'homme se dandinait d'un air embarrassé. « Faites excuse, capitaine, répondit-il enfin, mais les camarades, mieux que vous commandiez le service à l'un d'eux. » Personne ne se soucie de défier les esprits, d'autant qu'il arrive malheur à ceux qui les narguent. Service ordonné, on obéira sans cela. Jamais on arrivera à s'entendre. J'ai gagné le pari, capitaine, s'écria joyeusement Aurett. Se tournant vers le gabier, elle ajouta. Dites à vos camarades qui ne s'inquiètent plus aucun matelot. « N'ira dans la chambre des morts. » Le loup de mer interrogea des yeux son capitaine, et voyant que celui-ci approuvait la passagère, il s'en fut rejoindre ses compagnons, qui poussèrent un hurrah en apprenant le résultat de la négociation. Pendant ce temps, l'Anglaise, avec son plus doux sourire, déclarait à ceux qui l'entouraient qu'elle passerait la nuit au milieu des cercueils. Tout le monde vanta son courage, Bouvreuil comme les autres. Mais il s'éloigna en murmurant je comprends tout. Mais c'est un système analogue à celui qu'il a employé de Paris à Bordeaux. Cette fois, la caisse est une bière. Je crois que je le tiens enfin et que le mariage de Pénélope marche. »